Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pop en stock dans sa version table ronde transatlantique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion de ce jour de la Terre 2022, on vous propose une discussion autour d'un sous-genre très populaire de la science-fiction et qui a des racines bien plus anciennes, d'ailleurs on va en parler, les récits de catastrophes écologiques et climatiques, qui sont aussi vieilles que les récits eux-mêmes, mais qui sont très, très populaires dans les dernières années. Ce n'est peut-être pas l'angle le plus optimiste pour le jour de la Terre, j'en conviens, mais je reste convaincue que, comme pour les dystopies et les utopies, imaginer le pire pour l'éviter, c'est parfois bien plus optimiste au final que simplement espérer le meilleur. Donc, on vous propose une version un peu dark du jour de la Terre en espérant que ça va vous plaire ou au moins que ça va vous faire réfléchir. Je vous présente donc nos invités, André-Philippe Lapointe. Bonjour André-Philippe.
Bonjour.
André-Philippe est doctorant à l'UQAM sous la direction d'Antonio Dominguez-Leva ici. Il fait sa thèse sur la crise de la masculinité et des représentations dans les bandes dessinées d'Alan Moore. André-Philippe est un vieil habitué de Pop en stock, surtout de la première heure. Donc ensuite, on a Jérémy Cornec. Salut Jérémy.
Bonjour.
Jérémy, qui est très, très récemment docteur en études anglaises à l'Université de Bretagne-Occidentale. Il a soumis sa thèse en 2021 sous le titre « Imaginaire de la dystopie du post-humain dans les séries d'anticipation science-fictionnelle contemporaine entre 2009 et 2019 ». Donc, plutôt spécialiste de séries télé dont il va nous parler d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, Claire Le Gall.
Bonjour.
Qui est également docteur en études anglaises à l'Université de Bretagne-Occidentale, mais plutôt du côté littéraire. Mais quand même science-fiction elle aussi. Elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Fiction du post-humain, temporalité, hybridité et écriture » donc en 2019, que Claire va nous parler aussi donc de littérature de science-fiction. Et finalement, Antonio, qui est animateur habituel de Pop en stock, qui est directeur du projet, qui est prof à l'UQAM et qui donc va nous parler, va nous faire une petite introduction d'abord avant d'amorcer nos discussions plus sur des œuvres en particulier. Donc, une petite introduction historique, je pense, sur les apocalypses écologiques. Donc, bonjour Antonio.
Bonjour à tout le monde. Bon, dans les présentations, on te présente quand même Hélène et on présente aussi le fait que tu as justement gagné le prix de la relève du FQRSC Sciences et Littérature pour ton ouvrage, donc Les Post-Humains.
Les Post-Humains, oui. Descendent-ils du singe?
Exact, exact, exact. Littérature et cybernétique, d'ailleurs, dans un lien assez fascinant auquel on reviendra, donc il faudra consacrer une émission. Oui, donc l'apocalypse climatique désigne généralement un scénario prévisible impliquant l'effondrement global de la civilisation humaine, l'extinction potentielle de l'humanité, que ce soit conséquence directe ou indirecte du changement climatique anthropique. En septembre 2021, plus de 200 revues médicales ont publié un appel d'urgence à l'action, affirmant qu'une augmentation de la température de 1,5 degré entraînerait des dommages catastrophiques dont le monde ne se remettrait jamais, et une discipline transdisciplinaire s'est même créée à ce sujet, donc la collapsologie, terme proposé, inventé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, publié en 2015. Ça a donné lieu, le néologisme a saisi les esprits, et depuis on parle notamment de collapsonautes pour désigner les personnes qui vivent, donc prenant compte de cette situation, et je renvoie au petit livre de Yves Citon, « Génération collapsonaute, naviguée par temps d'effondrement ». Donc, ce sont des choses que tous les amateurs, amatrices de science-fiction connaissent depuis très longtemps, en réalité. Donc, c'est quelque chose qui a un peu envahi le discours social dans les dernières décennies, mais que la science-fiction, encore une fois, et c'est pour ça, entre autres, qu'on l'aime, en avait parler bien avant. La précarité de la situation écologique de l'humanité est devenue, au fil du temps, même l'un des thèmes majeurs de la science-fiction. Ceux qui connaissent la science-fiction un peu, disons, plus canonique, etc., penseraient que c'est quelque chose qui date aux alentours des années 60, mais en fait, c'est bien avant. Dès la fin de siècle, donc de la, qu'on appelle fin de siècle pour désigner la fin du 19e siècle, mais justement parce que l'ambiance à la fin du 19e siècle était cette ambiance totalement hantée par l'idée de décadence des civilisations occidentales, et donc c'était la fin de siècle qui était aussi une idée de fin de monde. C'est une grande époque des hantises, de toutes sortes de catastrophes, et ce qui est assez fascinant, c'est à quel point ça a en fait anticipé non seulement sur la Première Guerre mondiale, etc., etc., mais aussi sur tous les enjeux, disons, apocalyptiques du XXe siècle. Et ce n'est peut-être pas une surprise absolue, mais en fait, le premier grand texte consacré à une catastrophe climatique éventuelle, c'est Jules Verne, le bon vieux Jules Verne, alors que des fois, évidemment, grand parrain, grand ancêtre de la science-fiction, etc., mais en même temps que, bon, on a tendance parfois à négliger quand on parle plus de science-fiction moderne. Mais en fait, en 1889, il publie sans dessus-dessous, en anglais, The Purchase of the North Pole, qui est plus représentatif. Les deux titres sont très intéressants, vous allez voir pourquoi. Afin d'exploiter les mines de houille prétendument présentes dans les sous-sols du pôle Nord, une équipe de savants, d'armuriers et de mathématiciens entreprend de déplacer la Terre sur son axe en tirant un coup de canon si gigantesque que l'inclinaison du globe variera suffisamment pour exposer les banquises arctiques au soleil. C'était une idée qui était déjà avancée par le professeur Maston dans De la Terre à la Lune en 1865 et qui ici montre vraiment plein d'enjeux de ce qui nous occupe. En faisant donc fondre les banquises arctiques, ces capitalistes pourront accéder commodément aux ressources souterraines du pôle Nord dans le but de s'enrichir. Donc on a déjà en 1889 une présentation tout à fait claire de ce rapport, depuis dénoncé par les écologistes, etc., de ce rapport totalement de pillage par rapport aux ressources. Et cela risque de provoquer une catastrophe globale en chaîne qui est décrite donc dans les dialogues du roman en présentant donc toutes les conséquences de cette sorte d'effet papillon avant la lettre. Et toutefois, Verne n'opte pas pour la vision totalement apocalyptique, même si à la fin de sa carrière et de sa vie, il est devenu beaucoup plus méfiant envers la technologie qu'il ne l'était dans les premiers textes. C'est pour ça que des fois, on a une idée très imparfaite du rapport de Verne avec la technologie, parce qu'on pense que bon, c'est vraiment le 19e siècle, révolution industrielle, culte du progrès, etc. En fait, vers la fin du siècle, Jules Verne est lui-même devenu un personnage, un écrivain de la fin du siècle, et il est devenu beaucoup plus sombre. Mais toutefois, il y a une erreur de calcul et le projet échoue lamentablement. Alors, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que l'année d'après, il y a un ouvrage de Marriott Watson, « The Decline and Fall of the British Empire », où c'est l'impérialisme, donc on est dans l'âge absolu des impérialismes européens, et en fait, il imagine la fin de l'Empire britannique, grand thème de hantise, donc de fin de civilisation coloniale, etc., mais à coup de guerre climatique. Et donc, l'idée qui était avancée un peu par Verne par rapport à tout simplement la manipulation, l'hubris de la technologie, la manipulation, etc., là, ici, devient vraiment totalement martial dans un contexte de guerre impériale, comme sera la Première Guerre mondiale, et où on utilise le climat comme arme, quitte à le transformer, etc., etc. Donc, c'est un thème, encore une fois, qui nous surprend par sa nouveauté à la fin du 19e siècle, puisque c'est un thème qui est maintenant, donc dans ce premier tiers déjà du 21e siècle, devenu totalement d'actualité, malheureusement. C'est un thème qui est repris par Paul d'Ivoire, qu'on appelle un peu le sort de sous-Jules Verne, dans Les Semeurs de glace de 1902. Et ensuite survient une autre idée, donc ça va continuer dans la science-fiction, mais il y a une autre idée qui s'ajoute en 1913, c'est l'idée d'une catastrophe cosmique qui provoque une catastrophe écologique à l'échelle planétaire. Donc c'est quelque chose qu'on trouve avec Rosny Henné, un autre des grands parrains de ce qu'on n'appelle pas encore la science-fiction, le terme apparaîtra dans les pulps à la fin des années 20, mais donc c'est la force mystérieuse de Rosny Aîné, idée reprise dans The Sixth Glacier de Steve Benedict. On trouve d'autres types de sujets, de grands sujets, disons, à l'intérieur du méga sujet qu'est la catastrophe écologique. Dans un texte, par exemple, assez curieux de 1929 de Beresford, connu plutôt pour d'autres fictions sur les mutants, etc., et où il y a une sorte d'insecticide parfait qui, en fait, provoque une éco-catastrophe totale en éliminant les pollinisateurs de nombreuses espèces végétales. C'est « The man who hated flies », donc l'homme qui haïssait les mouches. Une idée qui était déjà un peu dans le fil du temps, parce qu'il y avait une autre nouvelle qui s'appelait « L'homme qui haïssait les vers de terre » de Edgar Wallace, mais où la catastrophe, elle, était empêchée. La possibilité d'une catastrophe mondiale causée par l'épuisement des sols est déjà explorée en 1938 par A.G. Street dans « Already Walks Tomorrow », et on a des ouvrages aussi assez précoces au sein même de la Deuxième Guerre mondiale, comme The Great Fog de Gerald Hurd, et un peu plus tard, un des grands classiques de cette fois-ci, connu par le public amateur de science-fiction, Greener Than You Think de 47 de Ward Moore, dans lequel l'apocalypse écologique, elle vient par le fait qu'il y a une nouvelle espèce d'herbe qui va supplanter toutes les autres plantes, idée qui est un peu reprise. C'est la grande époque, l'après-guerre évidemment marquée par la Seconde Guerre mondiale et hantée par toutes ces catastrophes, et ça devient une sorte de spécialité de la SF anglaise, où la critique a beaucoup vu aussi l'impact de la guerre et du déclin de l'Empire. The Death of Grass de John Christopher de 1957 montre un fléau qui affecte pratiquement toutes les cultures d'herbes au monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1957, une petite nouvelle, The Courts of Jamshed de Robert Young, montre les descendants de l'homme pleins de ressentiments, privés de ressources, et qui excorient rituellement la cupidité du passé, et en proclamant littéralement, nos ancêtres étaient des porcs. Et c'est très fort en 1957 d'avoir déjà cette idée qui va mettre beaucoup de temps à arriver dans le discours social et dans l'imprégnation du discours social de cette idée. Alors, les récits d'éco-catastrophes prennent un élan considérable dans les années 60, et là, parce que justement, il y a un certain nombre d'avertissements qui viennent de la part de scientifiques, parfois un peu aux limites fringe du champ scientifique. C'est parmi les grandes obsessions de l'époque la surpopulation, la population. Il y a un livre qui a été un best-seller, The Population Bomb de 68, qui est une sorte de fiction quasi-documentaire, etc. Et c'est de l'auteur Paul Ehrlich qui d'ailleurs utilise, je pense, le premier, le terme de éco-catastrophe. On est dans la grande époque d'ailleurs de la futurologie, donc des discours qui se veut semi-scientifique par rapport aux possibilités du futur. Et donc, ce texte est publié en 69. On commence à parler de l'effet de serre. Il commence à y avoir des éco-catastrophes extrêmes, comme un titre quand même fascinant, « Eco Death » de 1972 de William John Watkins, etc. Alors, beaucoup de ces récits sont remarquables par leur ironie. C'est le côté cautionary tale, comme disent les Anglais, non? Donc, c'est une mise en garde, mais souvent avec l'idée qu'au fond, l'espèce humaine n'aura qu'est-ce qu'elle mérite d'avoir provoqué toutes ces crises. Alors, il y a évidemment, à partir de la fin des années 60, années 70, une intensification de la prise de conscience écologique. C'est le moment où l'écologie entre vraiment dans le discours politique, dans le discours social, etc. Et du coup, les récits vont s'arrimer, les récits d'éco-catastrophes vont s'arrimer beaucoup à ces positions, donnant naissance à une sorte de nouvel sous-genre traitant justement les changements corrosifs dans la relation physiologique et psychologique de l'homme avec l'environnement. Donc, ce sont des textes comme « The Year of the Cloud » de Theodore Thomas en 70, « The Sea and Summer » de George Turner, 87, et 17, etc. Évidemment, toute la vague d'apocalypse anglaise de Ballard, donc « Le monde englouti », etc., etc. Donc, une sorte de « Wind from Nowhere »,« The Burning World »,« The Crystal World », donc une sorte de grande époque de Ballard, très axée sur ce thème. Des anthologies commencent à apparaître sur le thème des éco-catastrophes telles que « The Ruins of Earth », les ruines de la Terre, en 71. Il commence à faire aussi des projections dans le futur de la Terre en ruine, vu du point de vue écologique, donc, puisqu'évidemment, des terres en ruine, il y en a beaucoup dans la post-apocalypse, c'est même ça l'essentiel du truc, mais disons que avec un axe beaucoup plus écologique, tel que The Daymaker de Gwyneth Jones. Et là, a commencé à avoir une sorte de discours un peu curieux, on en parlait l'autre fois avec Hélène de cette idée d'imbrication un peu de l'utopie à l'intérieur de la dystopie, la possibilité de redémarrer sur d'autres bases, etc., etc. Mais on continue à voir tous les autres thèmes que je vous ai évoqués, tels que la guerre écologique, comme The Ecological Onslaught de Jack Vance, dès 1953. Il y a aussi des possibilités, donc grande entrée du thème du changement climatique qui se fait dans la science-fiction, et c'est tout un sous-genre qu'on a de glaciation. Alors, la glaciation, elle peut être provoquée par un hiver nucléaire, elle peut être provoquée par des catastrophes cosmiques comme celle qu'on évoquait tantôt, elle peut même être provoquée par des extraterrestres, et c'est une drôle de fusion de ces deux grands thèmes de la science-fiction. Ça commence assez tôt, en fait, avec un texte très original de Karel Čapek, La guerre avec les Newts de 1936. On la retrouve aussi dans l'apocalypse britannique des années 50-60, de Quake and Wakes de John Wyndham. Et l'orgueil scientifique, évidemment, l'hubris, donc le thème frankensteinien qui traverse toute l'histoire de la science-fiction, qui peut également conduire à la catastrophe climatique, comme dans Rings of Ice de Pierce Anthony. Vraiment quantité de thèmes, donc on ne va pas faire toute la liste. Il y a aussi des auteurs qui commencent à prendre une attitude contraire, donc climato-sceptique, comme on dit parfois. Même les écologistes présentés carrément comme les méchants dans Fallen Angels de 91, par exemple, de Larry Niven, Jerry Purnell et Michael Flynn, etc. Alors, on arrive plus donc vers cette fin de parcours. Évidemment, il y aurait tout le volet cinématographique, mais bon, on peut pas entrer dans tout le détail. Mais il y a de plus en plus, on le voit dans la fiction, quand on arrive à l'extrême contemporain, il y a presque une sorte de déferlement de ces fictions.
Oui, merci Antonio. De manière plus marrante, au départ, tu parlais de Sans dessus-dessous de Verne, puis de Beresford, tout ça, les technologies qui dérapent. Il y a le film Brain Freeze, qui est un film québécois d'apocalypse zombie qui est paru l'an dernier, qui est assez marrant parce que, en fait, il y a une apocalypse zombie qui est déclenchée par des scientifiques qui veulent pouvoir jouer, qui veulent permettre aux plus riches de pouvoir jouer au golf en plein hiver au Québec. Donc, on voit encore ce genre de choses où la science elle-même devient la source de tous les problèmes et non pas la source des solutions. Ce que j'ajouterais peut-être sur ton histoire dans les années 60-70, tu disais qu'il y avait un grand intérêt pour ce type de fiction. Je pense qu'une des choses qui est importante de mentionner, c'est qu'un des événements historiques qui a beaucoup déclenché l'émergence de ces fictions-là dans les années 60-70, c'est l'exploration spatiale. C'est les images en 68, dès les années 60, on commence à avoir des images de l'espace, de la Terre vue de l'espace. Puis en 68 en particulier, on voit vraiment la Terre entière qui a l'air tout petite au milieu de l'univers. Et puis en 90, Carl Sagan avec Voyager. Voyager est en train de quitter le système solaire et s'éloigner de plus en plus. Et puis il a décidé de tourner la sonde pour prendre en photo la Terre vue de très, très, très loin dans le système solaire. Et puis la Terre, c'est vraiment un point, un pale blue dot, qui disait Carl Sagan. Puis je pense que ça a déclenché énormément de conscientisation sur le plan écologique parce qu'il y a, oui, il y a quelque chose de minuscule dans la Terre qu'on n'a jamais perçu. Avant, la Terre pour nous était presque infinie avant.
Oui, et 72, c'est le Club de Rome, donc The Limits of Growth, le rapport. Et évidemment, c'est là qu'il y a cette idée qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est vraiment le cri d'alerte des scientifiques qui va avoir un grand impact sur ces fictions, sur ces fictions-là aussi, à une échelle très globale. Et là, c'est là où tout se mélange un peu, surpopulation, pollution, etc.
Puis le dernier truc que je voulais évoquer, tu parlais du climat comme arme, là, les guerres climatiques. Je pense que dans le transpersonnage aussi, c'est dans une des versions du transpersonnage, c'est ça aussi. Je pense que c'est la bande dessinée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup des fictions encore où le climat est plutôt le déclencheur des guerres, parce que c'est ce qui est quand même beaucoup plus probable, c'est-à-dire que les changements climatiques vont être la source d'énormément de guerres dans le futur, ça me semble une évidence.
Ben, le Canada, ça... avec l'Arctique, je pense qu'on n'est pas très, on n'est pas très bien placé là.
Non, on va être, ouais, on va être désirable très bientôt, je pense.
Ben, surtout ça, les réserves d'eau qu'on a, si ça commence à disparaître, le Canada en possède vraiment beaucoup, donc c'est ça.
Donc, je pense que ça, il va y avoir probablement un certain nombre de fictions qui vont commencer à émerger de ce côté-là. Je pense qu'ils vont être particulièrement pertinentes. Il y en a déjà un peu, là. Mara and Dan de Doris Lessing, elle en parle quand même pas mal.
Il y avait déjà aussi ça qui traversait un peu les gestionnaires de l'apocalypse, l'idée des différentes ressources avec le côté espionnage et tout, mais vraiment de prévoir un apocalypse et de faire une sorte de yacht où l'élite pourrait se réfugier le temps que la plèbe s'entretue. Très rapidement, quand Antonio disait à quel point c'était présent partout, je citerais quand même peut-être juste Thanos, le gros méchant qui a vraiment occupé la dernière décennie. Je veux dire, que ce soit rendu à ce point-là gros d'avoir un méchant qui est climatique, qui décide de détruire la moitié de l'humanité parce que lui-même a perdu sa planète, et que même Captain America, après qu'il y a eu cette hécatacombe, fasse « Ah, ben c'est vrai, il y a des baleines, comme le climat va mieux et tout. » C'est quand même intéressant que ce soit rendu à ce point-là mainstream maintenant.
Oui, absolument. Puis c'est intéressant parce que on entend quand même pas mal de monde défendre Thanos dans Marvel, ce qui est quand même l'ultime paradoxe, parce que je veux dire, s'ils ont bien voulu construire un méchant pour réunir tout le monde, c'est bien ça. Puis effectivement, on peut voir plein de gens dire « Ah oui, mais Thanos, il n'y avait pas tort quand même. »
C'est tout le débat de la Deep Ecology. C'est le livre de Pascal Bruckner, Les fanatiques de l'apocalypse. C'est-à-dire à quel point, à un moment donné, dans la logique écologiste, il n'y a pas l'idée que... J'évoquais que dans les années 70, il y a beaucoup cette idée dans la science-fiction que l'humanité comme espèce a ce qu'elle mérite. Et là, du coup, dans la deep ecology, c'est carrément le passage au-dessus, c'est que c'est l'humanité qui est le virus et il faut l'éradiquer finalement le mieux.
Oui, il y a même des groupes que j'avais étudiés dans ma thèse qui prônent le cannibalisme, qui prônent la fin de la reproduction humaine, puis ils donnent même des trucs sur comment consommer des humains parce qu'il faut arrêter de consommer le reste de la planète, puis il faut juste s'entre-dévorer plutôt que littéralement.
C'est bien qu'on soit passé de la dystopie de Soleil Vert à un projet souhaitable et écologique.
Ouais, c'est ça, c'est un peu particulier. Bon, ben justement, je vais en évoquer certains de ce genre-là moi-même. Donc, pour ma part, j'ai envie de m'arrêter à la temporalité des catastrophes écologiques. Après tout, comme la fiction d'ailleurs, le climat, c'est un phénomène essentiellement temporel pour moi qui a modelé notre perception du temps, d'ailleurs, avec le rythme des saisons qui nous permettent de nous nourrir, la succession des aires glaciaires et interglaciaires qui a permis à notre espèce de se développer et d'occuper tous les continents. Hein. L'histoire humaine a débuté plus ou moins au moment de la fin de la dernière ère glaciaire, donc c'est certainement pas un hasard. Le climat et la météo, à une plus petite échelle, n'est fait que de cycles, en fait. La différence entre météo et climat dans le contexte de la crise actuelle est d'ailleurs d'ordre temporel. Dans le rapport du GIEC de 2012, on parle d'événements climatiques ou météorologiques extrême. Donc, c'est le principal problème actuel. La différence entre les deux n'est pas précise, mais elle est reliée à des échelles de temps différentes. Donc, un événement météorologique extrême est généralement associé à un changement du modèle météo dans un intervalle pouvant aller d'un jour à quelques semaines. Un événement climatique extrême se déroule à une plus grande échelle et peut être l'accumulation de plusieurs événements météo, par exemple l'accumulation de journées peu pluvieuses au cours d'une saison qui résulte en une sécheresse. Donc, typiquement, l'événement météorologique est traité par les médias comme une fin du monde de tous les jours. Hein. C'est un peu toujours la tempête du siècle ici. Et aux États-Unis, par exemple, chaque ouragan pourrait être le pire de tous. Hein. Les médias sont particulièrement spectaculaires de ce côté-là. Et c'est toujours situé dans le futur, hein, l'événement météo. On l'annonce plutôt qu'on le raconte, puisque l'ampleur de ces événements-là déçoit presque toujours. Hein. C'est rarement la tempête du siècle. Alors que l'événement climatique, lui, est traité toujours a posteriori, hein, en régime post-apocalyptique, donc, et généralement à travers ses conséquences sur les populations humaines plutôt que ses causes, donc famine, destruction de maisons, etc. Donc, la raison du traitement différent est facile à comprendre. La météo est ponctuelle et violente. Elle correspond donc parfaitement au rythme des nouvelles en continu de nos médias et de leurs besoins constants d'images choc, sans compter qu'elle représente le sujet inoffensif par excellence, puisque tout le monde subit la météo et personne en est responsable. C'est différent pour le climat, qui change progressivement de manière beaucoup moins spectaculaire. Une moyenne de température, une moyenne de pluviométrie, par exemple, ce n'est pas très spectaculaire. Et les causes de ces changements sont inopportunes, hein, puisqu'elles nous permettent, elles nous mettent face aux problèmes de nos modes de vie et de notre système économique. Hein. Al Gore parlait de « inconvenient truth », donc c'est « inconvenient ». Il y a donc un problème de temporalité qui est au cœur de la crise actuelle, il me semble. La météo et ses catastrophes nous enferment dans un présentisme paralysant, alors que le climat change doucement dans un temps long qui nous échappe. C'est un peu le paradoxe de l'idée même d'anthropocène, hein, qui a d'ailleurs été popularisée par un météorologue, Paul Crutzen, qui, autour de l'an 2000, même s'il existait déjà avant. Donc, l'anthropocène qui est un mélange explosif, selon moi, entre la rapide évolution humaine et ses régimes politiques du court terme. Non, c'est un peu par définition le cas pour toutes les démocraties, et la lente évolution géologique de la Terre et de son climat. Donc, les fictions les plus intéressantes qui abordent le problème des catastrophes écologiques ou environnementales de manière générale, parce qu'évidemment tout est lié, sont celles, selon moi, qui tentent de résoudre ce problème temporel ou du moins qui réfléchissent par leur structure narrative. Donc, je vous en donne trois exemples. La série Tchernobyl d'abord et deux romans un peu plus anciens ensuite. C'est peut-être un peu étrange de parler de Tchernobyl pour parler de catastrophe climatique, hein, puisque ça n'en est pas une a priori, mais en même temps, c'est bien de ça dont parle la série à mots couverts, hein, par la métaphore et la métonymie. D'ailleurs, David Attenborough l'a bien compris, puisqu'il utilise lui aussi Tchernobyl comme avertissement dans son dernier documentaire et se rend lui-même à Pripyat pour introduire et conclure son film « A Life on Our Planet ». Mais ce n'est pas la métaphore qui m'intéresse, mais plutôt sa façon de traiter du temps de la catastrophe. La série Tchernobyl le traite grâce à une expansion temporelle progressive. Hein, les premières minutes après l'explosion occupent la moitié du premier épisode, donc quelques minutes se prennent environ une demi-heure à l'écran, qui se déroule d'ailleurs, donc le premier épisode se déroule d'ailleurs seulement sur quelques heures à peine, donc la première nuit, le deuxième épisode sur quelques jours, le troisième épisode sur des semaines, le quatrième sur des mois et le cinquième sur une année. Donc, ce qui permet de dépeindre avec précision l'ampleur de la catastrophe, hein, ses conséquences toujours plus grandes sur les personnes, les populations, les pays et les écosystèmes, et d'imiter la réaction nucléaire, donc qui s'étend, mais qui pourrait tout aussi bien être le climat lui-même, hein, dont les dérèglements ne font qu'en causer d'autres. Hein. On sait bien que le réchauffement entraîne un réchauffement toujours plus grand, entre autres en faisant fondre les banquises, en faisant fondre le pergélisol dans le nord, qui vont juste donc accélérer le problème, un peu comme une réaction nucléaire au fond. Et si la série montre dans le détail comment se déploie la catastrophe sur les gens et sur le territoire, elle s'intéresse surtout aux causes. C'est pour ça que la nuit fatidique du 25 au 26 avril 1986 est coupée en deux et représentée dans deux épisodes. Dans le premier, à partir de l'explosion et les heures de chaos qui suivent, et dans le dernier, qui s'ouvre 12 heures avant l'explosion et progresse jusqu'au temps zéro, dans le cadre du procès des responsables de l'usine. Donc, le télescopage entre le passé et le futur permet d'établir les relations de cause à effet qui mènent à la catastrophe et d'identifier précisément les erreurs à éviter. Donc, c'est ce dialogue-là entre le futur et le passé qui m'intéresse surtout et ce qui est au cœur de deux romans américains publiés à 20 ans d'écart. Timescape, en français, un paysage du temps, de Gregory Benford, publié en 80, et A Friend of the Earth, un ami de la Terre, de T.C. Boyle, publié en l'an 2000, donc deux romans américains. Dans les deux cas, les romans se déroulent à deux époques différentes qui se répondent et communiquent entre elles d'une façon ou d'une autre. Les deux romans jouent le jeu de la cautionary tale dont parlait Antonio plus tôt, de l'idée de la mise en garde. Le monde futur est apocalyptique, mais le présent n'est pas encore tout à fait écrit. Donc, Timescape se déroule pour la plus grande partie entre deux époques, 18 ans avant et 18 ans après l'année de parution, soit en 62 et en 98. En 98, la Terre entière est plongée dans une crise écologique et donc économique, humanitaire et politique profonde. On est vraiment dans l'apocalypse. Une grave sécheresse en Afrique se combine à une explosion de plancton dans l'océan Pacifique à cause d'une contamination aux pesticides qui provoque un dérèglement climatique mondial et la propagation d'un immense nuage toxique. Donc, c'est vraiment la totale. Les ressources alimentaires viennent à manquer, les énergies fossiles s'épuisent, la météo se dérègle alors que l'air devient plus ou moins respirable. Donc, tout le monde vit avec des masques. Un conseil est mis sur pied par les dirigeants du monde entier. Ils se réunis pour trouver des solutions, mais des physiciens offrent finalement une solution pour le moins originale et surprenante. Utiliser un principe de la mécanique quantique sur le temps non linéaire et la physique des particules pour envoyer un message en 1962 en utilisant des tachyons et tenter d'influencer le cours de l'histoire. Donc, en parallèle, en 62, un jeune professeur de physique enregistre des données anormales qu'il rejette d'abord, mais qui lui apparaissent graduellement comme ayant une structure et donc potentiellement un sens. Un des problèmes, d'ailleurs, pour recevoir le message, c'est que le message est trop interdisciplinaire, parce que le climat, c'est pas une discipline que ça concerne plusieurs disciplines. Et pour comprendre le phénomène, d'ailleurs, c'est un des grands problèmes, ça prend plusieurs disciplines. Il décode donc le message qui contient des mots d'anglais, mais surtout des données chimiques et physiques qui lui paraissent obscures. Son entêtement à y voir un message plutôt que du simple bruit le plonge dans une guerre départementale qui lui coûte sa carrière. Mais un an plus tard, des collègues biochimistes comprennent le contenu du message et commencent à agir. Puis un étudiant passant par le dépôt de livres scolaires du Texas afin de récupérer l'article du physicien en question interrompt Lee Harvey Oswald. L'histoire est donc altérée et le contact avec la réalité de 1998 est rompu. Donc, la dernière partie du roman se déroule en 1974, mais c'est impossible de savoir à quel point le futur va être différent et de quelle façon. Puis, il y a le roman A Friend of the Earth de T.C. Boyle, donc publié en 2000, 20 ans plus tard. Avec l'habituel humour décalé de Boyle, le roman se déroule à deux époques, entre 89 et 97 et 2025-2026, en Californie et en Oregon. Donc là, on est vraiment plus justement dans l'écologisme radical, puis on sent que Boyle y adhère tout autant qu'il s'en amuse puis qu'il tente de le ridiculiser. Donc, il y a un rapport un peu amoureux qui est assez intéressant dans le roman. Il suit l'histoire d'un père monoparental et de sa fille de 13 ans qui décide de s'impliquer dans Earth Forever, point d'exclamation. Il y a souvent des points d'exclamation dans les groupes d'activistes. Donc, un groupe d'activistes écologiques où il se radicalise rapidement, organisant des coups d'éclat qui l'envoient en prison. Il lui fait perdre la garde de sa fille, mais elle-même se radicalise et décide d'occuper pendant des mois un arbre qui doit être abattu, occupation qui se termine par sa fin tragique dans une tempête. Toute cette histoire nous est en fait racontée en flashback, puisque le récital se déroule en 2025 dans un zoo privé dont s'occupe le père de la première partie. Tant c'est compliqué, complètement déréglé et la biodiversité menacée. Il s'agit donc de sauver de l'extinction les derniers grands mammifères prédateurs. Donc, en pleine tempête et pendant une épidémie, donc là aussi, on essaie un peu une apocalypse très similaire au premier, fait de plein de petites catastrophes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc, ils sont forcés d'abriter les lions dans le sous-sol du manoir, provoquant la mort du propriétaire célèbre et le retour à une vie primitive dans la forêt des héros. Donc, le roman se distingue de ceux qui abordent à l'occasion climat par le fait que la météo n'est pas qu'un contexte ou un obstacle ou encore un symbole de l'humeur des personnages ou de l'état de la société. Il est aussi et surtout le reflet d'un rapport à la nature particulier dans l'histoire humaine, l'hyperbole de représentation dominante dans l'imaginaire contemporain. Donc, la météo devient centrale, l'architecte du monde fictionnel, mais aussi le démolisseur d'une société en déliquescence, autant dans ses structures matérielles que sociales et symboliques, donc du système économique à l'alimentation, en passant par la santé, la biodiversité et l'urbanisme. Donc aussi, ce que nous montre bien ce roman, comme Timescape d'ailleurs, c'est que la fin du monde par les changements climatiques est une fin du monde par accumulation de petits événements, chacun mineur et cumulable sur le plan collectif, mais majeur pour les individus. Et c'est la particularité du roman et de son narrateur écologiste situé dans le futur, qui, malgré l'accumulation de petites catastrophes, parvient jamais à oublier le tableau d'ensemble de la planète usée, hein, worn out dans le roman, au sujet de laquelle il jouait déjà depuis longtemps les Cassandres. C'est là que le roman de Boyle est le plus grinçant. Ce n'est pas parce qu'il frôle constamment le ridicule en tant qu'activiste, notamment par sa naïveté et son moralisme revendicateur, qu'il n'a pas raison pour autant, même s'il ne sait trop que faire de cette petite victoire au milieu de l'apocalypse. Boyle s'amuse donc à donner raison aux écologistes les plus radicaux, tout en ridiculisant leur sentiment de culpabilité à géométrie variable. Donc, dans certains passages, le père a d'ailleurs les mêmes fantasmes que les dieux sumériens, romains ou chrétiens et leur déluge. Il voudrait bien éliminer l'humanité entière, à l'exception de sa famille, bien sûr, comme Noé. Donc, évidemment, pour conclure, la science-fiction n'offre pas de solution simplement transposable et tenter de communiquer avec notre passé pour les avertir que le pire s'en vient n'est certainement pas la meilleure stratégie. Mais ce que ces fictions disent, je pense, n'est pas forcément aussi noir et pessimiste qu'on peut le croire. En fait, elles proposent que c'est justement la fonction de la littérature d'anticipation de nous permettre, d'une certaine façon, de communiquer avec le futur et de réduire la distance entre le temps court de la météo et de nos vies et le temps long du climat, de faire l'expérience du temps télescopique. Si c'est un problème d'imagination, hein, d'imaginaire, et je pense que ce l'est, la fiction et le récit est certainement une réponse, ou en tout cas la mienne.
Oui, cette idée du pouvoir de la fiction et du pouvoir spécifiquement de la science-fiction, donc qui est cette branche de la fiction qui justement s'attaque à cette idée de modélisation cognitive, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant de voir comment science-fiction précède, accompagne, influence, est influencée à son tour par le discours scientifique, mais surtout le discours social de ce que justement notre collègue et ami donc Jean-François Chassé appelle l'imaginaire scientifique.
Oui, absolument. J'ai déjà évoqué quand même un peu cette idée-là, je pense qu'André Philippe va aborder.
Ça, tu m'as très bien mis la table. Donc, c'est ça, je vais vous parler de Cassandre dans deux œuvres. Une que j'affectionne particulièrement, qui est Jurassic Park, parce que je l'ai vue vraiment assez jeune et ça a vraiment été très à la mode de Spielberg. Et l'autre, qui est vraiment ultra contemporaine, Don't Look Up, qui est paru sur Netflix. Et c'est quand même très bien parce qu'énormément de personnes l'ont vu. On voit dire avoir une satire plus efficace, même si certains l'ont trouvé un peu trop grosse comme trait, mais je veux dire, ça peut difficilement plus critiquer notre société que ça, et quand on l'aime, disons que c'était quand même très amusant. Donc, avant de rentrer là-dedans, je vais juste parler très rapidement de deux courtes bandes dessinées, vraiment de quatre cases et une case, qui me permettent de bien mettre la table et de réunir les deux motifs, c'est-à-dire les dinosaures et les météores. Donc, dans la première, on a deux dinosaures qui parlent avec un météore en arrière-plan. Et le premier dit « Je n'arrive pas à croire que c'est la fin ». Le deuxième lui répond « Ça aurait pu être pire ». Le premier demande « Comment ?» Et le deuxième lui répond « On aurait pu nous dire comment l'éviter et nous n'aurions rien fait pour ». Donc, ça résume en soi assez bien le film, donc « Look Up » et aussi jusqu'à un certain point, nos actions actuelles pour contrer l'urgence climatique qui sont, en delà de ce qu'on devrait faire. Donc, et l'autre est encore plus simple, c'est vraiment juste une image. On voit quelques dinosaures qui observent un météore qui va percuter la Terre, qui est celui qui va les détruire. Et le T-Rex fait juste dire « Oh shit, l'économie ». Donc, c'est quand même encore une fois assez amusant parce que, évidemment, avec le recul, on sait que les dinosaures avaient d'autres problèmes à ce moment-là de leur histoire. C'est aussi, évidemment, encore une fois, une analogie à notre propre société qui, souvent, met sur le même plan l'économie et l'environnement, ce qui est, dans les œuvres que je vais vous présenter, en tout cas, une erreur. Très brièvement, rappeler que Cassandre est cette fille du roi Priam, cette Troyenne, qui a une vision. Elle sait qu'il ne faut pas laisser entrer le cheval de Troie parce que ça en est la cité à sa perte, mais personne peut écouter ce qu'elle dit à cause d'une malédiction divine. Finalement, le cheval rentre et c'est la fin de la ville de Troie. Donc, juste pour rappeler pour ceux que c'est un peu loin, le mythe de Cassandre. D'emblée, je vais parler de deux personnages qui reprennent ce regard-là, qui est prépondérant. On le voit ne serait-ce que dans le titre « Don't look up », c'est vraiment l'idée de ne pas regarder ou regarder. Et ce personnage-là, qui peut être considéré comme un protagoniste de l'histoire, capte le danger inhérent de la situation, agit jusqu'à un certain point comme prophète de malheur, qui tente d'avertir les autres personnages, soit de son groupe, soit de la communauté, plus généralement. Donc, contrairement au mythe antique, l'aveuglement vient d'un paradigme qui est complètement autre et qui n'arrive pas à comprendre ce qui est dit. D'abord, celui de l'industrie du divertissement et du spectacle, et plus globalement, évidemment, le système capitaliste et la foi assez aveugle en le progrès. Amon représente, en ce sens-là, dans Jurassic Park, très bien une figure à la Walt Disney, qui justement aussi, c'est ce qui est intéressant, pas que négatif, il y a vraiment l'idée de rêve d'enfance derrière celle-ci. Et c'est ce qui veut d'en faire juste aussi une caricature. Le premier paradigme, c'est le divertissement. Le regard du prophète peut facilement y être intégré à travers la fiction. En tant que spectateur, nous regardons d'ailleurs un produit narratif qui se veut divertissant. Tandis que dans le second discours plus capitaliste, il représente évidemment une contradiction, un discours en apparence peu crédible, car original et passionné. C'est vraiment là-dessus que je vais davantage plonger par rapport à mes deux prophètes. Donc, dans Jurassic Park, le seul autre scientifique du film, le généticien, va railler les propos de Malcolm quand il lui demande s'il insinue qu'un groupe peuplé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire devant le malaise dont témoignent toutes les réactions et les questionnements du personnage. C'est quand même assez important pour les personnages des deux films, c'est la place des émotions qui est vraiment à considérer, étant donné que ceux-ci sont traditionnellement associés au féminin, tandis que, évidemment, la science, elle, est plus associée au masculin. Et, évidemment, le discours scientifique moderne est associé à quelque chose de mesuré, distant, détaché, froid, qui est vraiment qu'une démonstration, que des chiffres en théorie. C'est vraiment l'imaginaire qui dit ça, parce que, évidemment, la manière dont vont apparaître les différentes figures de prophètes et la manière qu'ils communiquent, qu'ils sont perçus, même leur éthos, dépend beaucoup plus que leurs propos en lui-même et leurs démonstrations qu'ils peuvent faire, aussi scientifiques soient-elles, parce que souvent, elles ne seront pas nécessairement comprises, étant donné que, surtout avec la science moderne, on rentre souvent dans des trucs assez complexes. Quand Hammond parle la première fois de Malcolm, il l'oppose à ses savants, qui sont des vrais savants avec un objet précis, la paléontologie, les fossiles qu'on peut observer, tandis que lui est qualifié de rockstar et sa science d'un tas de chiffres compilés de nouvelles manières. Il possède également des caractéristiques qui éloignent des codes d'une masculinité traditionnelle. Il adore les enfants, il critique ouvertement le football dans le livre, il est peu habile physiquement, ne serait-ce repenser, si vous avez vu le film récemment, à la scène où il essaie de distraire le tyrannosaure Rex, il n'y arrive pas du tout, alors qu'au contraire, Grant, lui, qui représente une masculinité traditionnelle, y arrive beaucoup mieux. Je vais aussi parler juste une phrase de Tchernobyl, parce que moi aussi, j'y ai vu quand même des liens, et surtout la figure de Cassandre. Donc, Valérie Legasov, la première fois qu'il parle, quand il vient de découvrir la catastrophe et à quel point ça risque d'être problématique, est immédiatement qualifié d'hystérie par le Conseil, alors que pourtant, il a donné que des faits, il a déconstruit ce qui a été dit, mais il fait avec beaucoup trop d'émotion. Alors, il va redire à peu près les mêmes choses de façon beaucoup plus posée. Évidemment, le cas qui est peut-être le plus caractéristique dans le film Don't Look Up demeure Kate Debiowski, une doctorante qui va avoir trouvé la météore qui va s'écraser sur la Terre, dont l'image va être récupérée et détournée sur les réseaux sociaux après qu'elle ait passé dans les médias. Donc, évidemment, sa réponse est celle qui semble la plus légitime, presque celle qu'on aurait envie de faire devant la quasi-certitude d'annulation et l'absence de réelle réaction des animateurs et des animatrices de l'émission. Dans le fond, eux sont vraiment juste dans un small talk et leur code les éloigne complètement, étant donné que c'est ceux du divertissement, d'une capacité à vraiment bien réagir à l'information, bien en tenir compte. Donc, les craintes de Malcolm gagnent peu à peu le reste du groupe dans Jurassic Park et c'est visible autant à travers les dialogues que dans la manière de l'image d'isoler ou non le scientifique. Le basculement survient moins pour des raisons directement rationnelles que liées aux émotions et aux représentations des personnages. Je parlais tout à l'heure de la scène avec le généticien. Cette scène-là est une scène où on voit la naissance d'un dinosaure que Grant, qui est un autre personnage principal, tient dans ses mains. Et après l'émerveillement de sa naissance, on a vraiment tout dans autant l'image que le son qui renvoie à ça, bien, on passe à une peur viscérale quand on apprend que le dinosaure en question est un raptor. On est vraiment juste dans les représentations. L'animal n'est pas en soi dangereux, mais on sent tout le potentiel qu'il y a. Ceux et celles qui vont interroger Kate Debiowski, son professeur, Dr. Angal, dans le restaurant après que le gouvernement ait comme arrêté un projet qui semblait prometteur, disent clairement qu'ils s'inquiètent d'abord pour leurs proches. Ils veulent savoir si leurs proches sont en sécurité. Cependant, dans les deux cas, évidemment, l'avertissement, comme c'est le cas nécessairement avec Cassandre, n'empêche nullement la catastrophe. Donc, évidemment, avec le capitaliste vient la notion de risque calculé, qui est évidemment problématique parce que si jamais il y a, le risque n'est pas bien balisé et qu'il y a une erreur, ça nous met dans une position très problématique. Et aussi, celui généralement qui fait ce risque calculé-là se met en scène comme posture démiurgique ou omnisciente, vraiment une capacité de voir plus loin et de contrôler. Malheureusement, là, va révéler ses limites, surtout qu'il y a une pléthore de signes du chaos qui est annoncé. Selon l'expression de Malcolm, la vie trouve toujours son chemin, même si c'est éventuellement dans la destruction. Donc, il y a une sorte de marche qu'on ne peut arrêter. Dans Don't Look Up, ces signes se dessinent, entre autres, à travers la bêtise et la superficialité des élites, que ce soit les dirigeants de la célébrité, mais même l'élite scientifique, les réseaux sociaux, évidemment, les médias, la culture pop. Mais aussi, on le voit à travers la marche quotidienne des populations humaines ou animales. Et ces images-là qu'on voit à travers le film qui, dans le fond, qui arrive un peu à tous les moments entre différentes scènes, nous montrent aussi la beauté de cette diversité-là qui est évidemment à préserver, idéalement. Dans Jurassic Park, à l'image du premier pas qui résonne dès l'ouverture du film et de tous les dérèglements dans le parc, rien ne marche dans ce parc-là, il est en train d'essayer d'être mis, on note la présence du danger qu'annonce déjà l'accident initial, qui est la mort d'un des gardiens par un raptor. Donc, la gradation dans le désastre survient à mesure d'une certaine volonté de contrôle qui révèle ses limites. Les deux œuvres soulignent notre absence totale de contrôle sur les forces de la nature dont nous faisons inévitablement partie, ce que les hommes nous rappellent, et de vouloir s'en extraire, et évidemment, d'une grande prétention, d'un grand hybris qui souvent amplifie le désastre. À la fin, dans Jurassic Park, le monde sur l'île redevient complètement préhistorique. C'est particulièrement visible lorsque le tyrannosaure Rex rugit à la fin, tandis que les humains n'ont plus la place, doivent quitter l'île, et qu'il y a une immense banderole sur laquelle est inscrit « Quand les dinosaures régnaient sur Terre ». Et dans Don't Look Up, l'élite se réfugie finalement sur une planète vraiment très éloignée, à peu près 10 000 ans d'ici, dont les caractéristiques la rendraient probablement habitable, mais la présence d'extraterrestres belliqueux, qui ressemblent d'ailleurs à des dinosaures, rend leur avenir très incertain. Donc, ainsi, même si la figure de Cassandre n'arrive pas à arrêter le péril, est toujours quand même assez efficace et intéressante, parce que autant dans les films que dans la réalité, elle expose la contradiction qu'il y a entre les signes dans lesquels nous disposons et les actions que nous posons présentement au quotidien pour éradiquer la catastrophe, qui montre qu'on est vraiment inscrit dans une société qui suit le quotidien jour après jour. Le regard de Cassandre peut dépasser ses limites et le système qui souvent repose sur des différentes formes de pouvoir, même quand il se veut aussi désintéressé et généreux comme celui d'Aman. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça m'a vraiment permis de lier ces deux œuvres-là et tous les problèmes qu'il y a que la figure de Cassandre permet de montrer.
Merci, André-Philippe. Déjà, sur Tchernobyl, c'est intéressant parce que la scène dont tu parles, où Valérie Legasseff essaie de convaincre le conseil et Gorbatchev, en fait, qui est là, je la trouve particulièrement intéressante. Oui, tu as raison, c'est parce que Legasseff est très émotif, qui d'emblée, il n'est pas écouté. Mais pour moi, s'il est écouté à la fin puis qu'il devient... Il perd complètement son statut de Cassandre parce que dès la fin de cette réunion-là, on l'écoute, puis ça devient la référence. Puis dès qu'il dit quelque chose, on l'écoute. Même s'il annonce une apocalypse, Gorbatchev, il est comme « Oui, oui, inquiétez-vous pas, on vous donne toutes les ressources que vous avez besoin. » Mais la raison pour laquelle, je pense, il réussit à convaincre, donc si on fait une analyse vraiment rhétorique de son intervention, c'est que c'est le mélange, en fait, d'émotion puis de rationalité qui est important. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'il passe de l'émotion à la rationalité que les deux sont nécessaires pour convaincre, puis dans cet ordre-là, puis de cette façon-là. Je pense que c'est un exemple idéal, en fait, justement, d'un Cassandre qui devient un expert qu'on écoute, parce qu'il y a une réaction émotive et donc il attire l'attention. Ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on revoit d'ailleurs dans le mouvement écologiste actuellement, hein, au Canada, on a Stephen Guilbeault qui a longtemps été un militant de la première heure, très, très actif, très, très émotif justement dans sa dénonciation des problèmes écologiques, puis maintenant est ministre et puis est obligé de faire des concessions, puis il devient si rationnel, disons, qu'on ne l'écoute plus. Mais donc, c'est deux aspects du problème. Je pense que Legasseff le montre bien qu'il faut d'abord se faire entendre, puis pour ça, l'émotion est nécessaire. Puis ensuite, il faut expliquer calmement la situation, puis essayer de faire comprendre. Puis je ne suis pas sûre qu'on le voit. Je me demande si ce n'est pas ça l'échec, justement, dans Don't Look Up, puis dans Jurassic Park, c'est qu'on n'a jamais ce passage-là qui s'articule.
Dans Don't Look Up, je pense que tu as parfaitement raison, surtout avec le docteur Rendall qui part vraiment dans un point Godwin à traiter les autres. Ah ben vous êtes des fascistes et tout. On voit vraiment quand il commence à répondre sur les réseaux sociaux. Là, on sent vraiment effectivement qu'il n'y a pas ça. Et évidemment, tu as raison, je ne disais pas qu'il fallait complètement quitter le discours scientifique et rationnel, mais il faut commencer par donner une vision plus émotive pour faire réagir le monde. Et dans Jurassic Park, par contre, je crois que la scène qui suit celle du généticien, où il y a un discours qui est vraiment celle du dîner, là, il arrive à avoir gain de cause parce qu'il explique justement tous les dangers et le problème qu'il y a, parce qu'on peut faire quelque chose, on le fait, qui est un vieux problème avec la science qui, comme Antonio le disait, on peut remonter à Frankenstein, là, c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire et qu'il peut avoir des problèmes. Mais je crois que Malcolm se veut quand même assez convaincant. Je pense juste que dans son cas, tout particulièrement, il vient trop tard parce que tout le monde est déjà de son côté quand cette scène-là finit. Et Amon se plaint en disant qu'il y a juste l'avocat qui est de son avis parce que lui veut juste faire plein d'argent, mais que les scientifiques sont déjà plus tellement de son bord.
Puis ça m'amène à juste un autre petit point que je trouve intéressant. C'est que Cassandre annonce l'avenir. C'est-à-dire qu'elle annonce quelque chose qui va se passer dans le futur qui n'est pas vraiment prévisible, en tout cas, qui ne l'est pas clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, elle n'amène pas aucune preuve, elle a eu une vision. Mais dans ce qui est intéressant, dans Don't Look Up, puis je pense que le titre le dit bien, puis Jurassic Park, c'est la même chose, c'est en ce moment, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à convaincre qui que ce soit, même devant l'évidence. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. Donc, on est rendu dans une logique de Don't Look Up, c'est-à-dire, regardez pas en haut, il y a une preuve de ce que je dis qui est fausse. Donc, je vous dis de même pas regarder. Donc, en gros, c'est j'ai même pas besoin de vous convaincre, les preuves sont là, je vous dis juste de ne pas les regarder. Donc, il y a comme quelque chose de l'ordre du... On est rendu à annoncer un futur qui est déjà là, en fait, puis on refuse de... Donc, on est dans un déni de réalité. Donc, c'est un rapport au réel aussi qui est dans ces deux films-là, je pense, qui est intéressant, parce que même dans Jurassic Park, c'est ça, je veux dire, Hammond est encore en train de dire que tout va bien, alors que le tyrannosaure n'est plus dans son enclos, là, je veux dire... Il y a quelque chose de vraiment absurde dans le déni de réalité qui est là, puis qui correspond aussi au fait que maintenant, la réalité, c'est une opinion, tu sais. On est rendu à une espèce de logique de ce genre-là.
Puis même quand ça va trop mal, il dit « Ah, ben la prochaine fois, quand on refera Jurassic Park 2 ou 3, il y a tout à fait ça. » Cela dit...
Ou 4 ou 5.
Tu as raison, en absolu, oui, tout est là, mais tant qu'on ne voit pas la météore dans le ciel, tant qu'il faut encore un télescope pour l'avoir ou des choses comme ça, oui, il y a des images et tout, mais il y en a qui vont dire que ces images-là ne sont pas vraies. Il y a vraiment... C'est un peu toutes les théories conspirationnistes. Présentement, je veux dire, il y en a qui disaient qu'il y avait un réseau pédophile dans un restaurant de pizza dans le sous-sol, mais il n'y avait même pas de sous-sol. Donc, évidemment, si... on est rationnel et si on observe bien la situation, on peut se rendre compte que c'est effectivement très convaincant, mais le moment où le météore est vraiment visible, même ceux qui sont qui ne veulent pas regarder dans les airs le voient et font « Ah, ben vous avez menti, en fond, vous êtes des menteurs. » Donc, il y a quand même aussi cette dynamique-là.
On est un peu confronté, malheureusement, et c'est un des côtés un peu les plus flippants de ces dernières années. On est en train de vivre les théories de la postmodernité. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre ce que Baudrillard, etc., présentait. À l'époque où il le présentait, c'était vu quand même comme une sorte de critique très apocalyptique, justement, pour reprendre le terme tel que l'employait Umberto Eco dans Apocalyptici e Integrati, donc l'opposition qu'il fait entre les critiques apocalyptiques de la culture de masse et les critiques intégrées qui disent que tout va bien. Enfin, grosso modo, la grande bipartition, la culture de masse, c'est la catastrophe absolue universelle et c'est la panacée. Donc, Umberto Eco essayait de tracer une voie au milieu. Donc, on a beaucoup vu, surtout en France, où on l'a un peu... quand même traité un peu comme une sorte de bouffon que dans certaines ambiances, les disciplines universitaires, etc. Alors que là, les constats terribles de cette sorte de société du spectacle de bord, de la société totalement envahie par des simulacres, etc., c'est bien ce que montre Don't Look Up, c'est-à-dire c'est l'invasion du simulacre sur la vie réelle. Et donc, tout passe par la médiatisation. Dès le moment que tout passe par la médiatisation, c'est les lois de la médiatisation qui triomphent et non pas les lois ni du discours scientifique, ni de... C'est vraiment la loi de comment est-on capable de créer du spectacle, de créer quelque chose. Et donc, c'est là où c'était très drôle dans Don't Look Up, le côté que la seule chose qui intéresse les gens, c'est tout de suite la catégorisation entre... Le mec sexy et la nana hyper Cassandre, mais dans le côté où on la stigmatise tout de suite, on la met au pilori. Et donc, cette bipartition, on voit bien que c'est la bipartition de la société du spectacle. On s'en fout complètement de ce que les gens disent. C'est vraiment le culte de l'image, de ce qu'on peut, de la mythologie qu'on peut créer autour d'eux, dans quel sens ils peuvent donner du clic, ils peuvent faire que les gens s'intéressent aux émissions, parce qu'au fond, ce qui importe, c'est de vendre du média. C'est ça le truc qu'on oublie trop souvent. Ça commence par les journaux. Les journaux, ce qu'ils veulent, c'est vendre quand même. C'est pas... Les gens ont tendance à oublier genre, l'information, comme si l'information, c'est une sorte de manne ou une sorte de droit absolu du citoyen, etc. Mais l'information, depuis le 19e siècle, c'est une entreprise capitaliste. D'ailleurs, c'est un des grands vecteurs du capitalisme, l'industrialisation de la presse, etc. etc. Donc, le journalisme, il ne faut jamais oublier que c'est quand même un média qui veut faire de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai trouvé vraiment bien dans Look Up, c'est-à-dire que le passage de ce qu'on croit encore, parce qu'au fond, on croit encore, on est un peu encore dans l'idée des lumières, qu'il y a un discours éclairé qui peut venir de la science, etc. Mais dans le constat d'échec déjà des Baudrillard, etc., c'est qu'on s'en fout complètement de ça maintenant. C'est parce que ce n'est pas ça qui est devenu le vecteur de nos sociétés. Le vecteur de nos sociétés, c'est les médias, c'est la spectacularisation, c'est l'appréciation des simulacres, c'est le fait que comment le discours social est façonné par la manière dont les médias présentent la réalité. Et donc, l'idée est d'essayer de trouver le réel ou la réalité. Bon, là, on n'entrera pas dans tous les trucs sur le réel, Lacan, tout ça. Mais disons, l'idée de tout simplement essayer de penser qu'on pourrait avoir accès à ça, c'est vraiment devenu très problématique. D'où le fait que tout de suite, et c'était ça, je trouve, le côté évidemment sympathique de Don't Look Up, mais en même temps hyper angoissant et tout ça, c'est que finalement, tel qu'on est maintenant, ce serait très probablement comme ça que ça se passerait.
Ben, il y a beaucoup d'articles de climatologues qui ont dit « Ah ben au final, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien, c'est un peu la réaction qu'on a. » Et on a quand même encore aujourd'hui, je prends un peu le rêve d'Internet qui est comme « Ah ben s'il arrive quelque chose de vraiment grave, on peut le mettre sur Internet et ça permet d'avoir comme des nouvelles, de faire comme un peu bouger l'information. » Mais même encore une fois, ça va devenir qu'une petite chose qui n'aura pas, au final, énormément de représentativité, de visibilité dans la sphère de l'information. Donc.
C'est la lutte de la viralisation, c'est une lutte de la spreadability, donc la possibilité que ça puisse se reproduire. Non? Donc, en fait, c'est vraiment pas plus une question du vrai et du faux, c'est une question de qu'est-ce qui, donc très darwinien, qu'est-ce qui va être plus viral, tout simplement. Donc, si le contre-discours, il est plus viral, bah, c'est le discours qui va être le plus répandu. Donc, et dans ce sens-là, la satire était bien très grosse, je veux dire, grosse satire, mais bon, c'est aussi parce que, justement, ça s'adresse à un public qui est probablement un peu souvent pris là-dedans, quoi.
Ouais, quoi faire contre une bonne histoire, quoi. Donc, on passe peut-être de Cassandre à la catastrophe elle-même, aux représentations de la catastrophe elle-même. Donc, je pense que je donnerais peut-être la parole à Jérémy et qui va nous parler d'une série que je ne connais pas, donc j'ai bien hâte de l'entendre.
Super, merci Hélène. De toute façon, en fait, il va y avoir plein de liens avec tout ce qui a été dit jusque-là, donc c'est assez intéressant. Mais donc, la série dont je vais vous parler aujourd'hui est Into the Night, série belge produite et diffusée sur la plateforme de visionnage en ligne Netflix. La série part d'un postulat simple. Les rayons du soleil sont désormais mortels pour l'espèce humaine et chaque personne exposée aux rayons meurt rapidement. Au fil des épisodes, les personnages spéculent sur l'origine de ce changement et la piste la plus probable semble être un dérèglement du cycle solaire en raison des activités humaines sur Terre. À première vue, aucun endroit sur la planète ne permet d'y échapper, pas même les bunkers les plus isolés, même si on apprendra plus tard dans la première saison que les bunkers situés sous une étendue d'eau sont viables puisque protégés des rayons du soleil par l'eau. Au début de l'épisode pilote, Terenzio, traducteur militaire pour l'OTAN, surprend une réunion d'ambassadeurs exposant la situation et parlant de fuir dans un bunker. Effrayé et paniqué, il décide de se rendre à l'aéroport le plus proche, à Bruxelles, et prend en otage un avion à destination de Moscou au moment de l'embarquement. Certains passagers et membres de l'équipage déjà à bord de l'appareil se retrouvent donc contraints d'obéir à Terenzio. Dans Into the Night, donc, les personnages doivent faire face aux conséquences d'une catastrophe longue qui n'a non pas eu lieu et est terminée, mais qui se déroule sous leurs yeux ad vitam aeternam. Elle est continuelle. Et on retrouve peut-être d'ailleurs ici l'idée du temps long du changement climatique dont tu parlais un peu plus tôt, Hélène. Chaque jour, la lumière menace de tuer les personnages et seule la nuit est salvatrice. Les personnages n'ont donc pas de répit. Les épisodes sont d'ailleurs construits sur cette urgence de la catastrophe climatique. Au travers de la narration et de l'articulation des plans, le spectateur ressent la course contre la montre dans laquelle les personnages sont forcés d'embarquer. La première saison se passe quasiment intégralement dans l'avion détourné dans le premier épisode. Aussi, le premier objectif véritable des personnages est de ne pas être rattrapés par le soleil. S'enchaînent alors de nombreux tours du monde à bord de l'appareil, avec des arrêts réguliers nécessaires pour réapprovisionner l'avion en essence et le groupe en nourriture. Chaque arrêt participe à la reconstruction des événements qui ont bouleversé l'univers fictionnel. Et les arrêts sont importants pour deux choses. Ils permettent dans un premier temps de rajouter une tension narrative supplémentaire, puisque évidemment les personnages ont très peu de temps au sol pour trouver tous les biens nécessaires à leur survie avant de devoir repartir pour échapper au jour et au soleil. Mais ils apparaissent également comme des fenêtres ouvertes sur la catastrophe. À bord de l'avion, en pleine nuit, il semble en effet parfois difficile pour les personnages, mais aussi pour le spectateur, de réaliser l'ampleur de la catastrophe écologique. Si les personnages doutent, dans un premier temps, de la véracité des propos de Terenzio, justement parce que Terenzio est paniqué et dirigé par ses émotions et passe pour un fou ou un alarmiste. Et là, je pense à ce qui a été dit par André et Philippe, mais aussi en fait ce qui a été dit par rapport aux médias, parce que justement, quand vous en avez parlé, ça m'a rappelé quelque chose. Mais le premier réflexe des personnages, alors qu'un membre de l'OTAN leur annonce une catastrophe, c'est d'essayer de se connecter à Internet pour voir s'il y a des articles sur la catastrophe. Mais donc voilà, donc le premier arrêt, il permet en fait de légitimer la catastrophe. Le groupe tente d'atterrir à l'aéroport de Reykjavik, mais est forcé de repartir dans les airs. L'aéroport est couvert de débris d'avions en feu et d'une foule paniquée, désireuse de fuir l'Islande sans destination précise avant que le jour se lève, ayant appris par les médias internationaux que le soleil est désormais meurtri. La série utilise également un autre aspect pour accentuer la dimension planétaire de la catastrophe, malgré l'aspect presque huis clos de la série, c'est la diversité du casting des personnages. À bord de l'avion, nous retrouvons des personnages belges, russes, turcs, polonais, marocains, français et italiens. Chaque épisode a pour titre le nom d'un personnage du groupe et s'ouvre généralement sur une scène d'introduction pré-catastrophe, expliquant les raisons pour lesquelles le dit personnage se trouve à bord de l'avion. Au premier jour de la catastrophe, donc, chacun prend conscience de la disparition de ses proches au fur et à mesure que le soleil continue sa progression autour de la Terre. Cet aspect permet à la fois de globaliser la catastrophe, de souligner sa dimension planétaire, tout en mettant en avant ses impacts sur l'individu. Si l'avion apparaît dans un premier temps comme une solution permettant d'échapper à la catastrophe, le répit est de très courte durée puisque l'instabilité de la situation est constamment remise en avant. Un seul problème mécanique, un seul retard au décollage, un seul imprévu et le groupe entier se retrouvera exposé aux rayons du soleil. La situation empire d'ailleurs rapidement puisque les personnages découvrent que les rayons du soleil ont également endommagé la nourriture sur Terre, qui a désormais perdu toute valeur nutritive et l'essence nécessaire au fonctionnement de l'avion. Le nombre de ressources est désormais encore plus limité et seules les ressources conservées sous l'eau sont encore viables. La survie à la catastrophe semble donc encore plus impossible jusqu'à la découverte d'un bunker sous l'eau occupé par des militaires. La saison 2 repose d'ailleurs sur un conflit souterrain entre les forces armées et les personnages de la première saison, reprenant ainsi le motif du bunker apocalyptique dans lequel les différentes factions se battent pour établir un pouvoir totalitaire. Et là, je pense notamment à The 100. Et on retrouve ici aussi l'idée dont tu parlais un peu plus tôt, Hélène, qui est le conflit armé pour les ressources. Il reste littéralement une poignée d'êtres humains sur Terre dans cet univers fictionnel, et le conflit, plutôt que la collaboration, prend le dessus. Je voulais juste aussi rapidement parler du personnage de Horst, qui est un peu l'archétype du scientifique raté, qui tente malgré lui de trouver une solution permettant à l'espèce humaine de pouvoir vivre à nouveau à la lumière du jour. Pour ce faire, il utilise des rats trouvés dans le bunker, rare espèce animale ayant survécu à la catastrophe, qu'il emprisonne dans des boîtes de différentes matières à l'extérieur du bunker en journée. Si toutes les tentatives ont échoué, la deuxième saison se termine sur une réussite, laissant à penser que dans la troisième saison, les personnages seront en mesure de quitter le bunker. On peut peut-être voir dans cet aspect une idée un peu utopique, comme le besoin qu'a l'humain de trouver, quoi qu'il arrive, une solution, même si en soi, à part offrir à l'humain la possibilité de sortir à la lumière du jour, cette découverte ne permettra pas de résoudre la disparition des ressources et des espèces. Et donc, malgré les expériences de Horst, la série Into the Night laisse finalement peu de temps aux personnages pour réfléchir aux conséquences d'une catastrophe écologique d'une telle ampleur. L'éco-catastrophe est l'élément central de l'œuvre autour duquel s'articulent alors toutes les intrigues. À chaque nouvel épisode, on en apprend un peu plus sur la catastrophe et l'espoir de voir un jour la situation s'améliorer diminue. Le désespoir et le fatalisme de la situation est tel que beaucoup de spectateurs pensent d'ailleurs que la série se terminera par la mort de l'intégralité des personnages incapables d'échapper aux rayons mortels. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que cette dimension fataliste est renforcée dans la série par l'oppression que provoque l'absence de lumière. Les personnages dorment désormais le jour pour passer la nuit à chercher des vivres. L'obscurité est salvatrice pour les personnages, mais elle offre aucune variation, aucun changement. Et il faut également souligner que cette course contre la montre perpétuelle est rendue possible au niveau du format par le format court de la série. En effet, chaque saison se compose de 6 épisodes et permet de maintenir une tension sans tomber dans une lassitude ou un effet de surplus qu'un nombre d'épisodes plus conséquent aurait potentiellement engendré. Et la durée des épisodes est également à prendre en compte puisque chaque épisode dure en moyenne entre 30 et 35 minutes. Pour conclure, juste je dirais donc que Into the Night se construit sur une course contre la montre d'une génération d'êtres humains dépassés par les événements, ayant pris en retard le train de l'écologie et de la préservation de l'environnement et tentant désespérément de survivre au jour le jour. Et on peut alors sans doute y voir un lien direct entre la dimension anticipatrice de la série et la situation dans laquelle nos sociétés contemporaines se trouvent.
Oui, c'est vraiment intéressant. Cette idée-là de la survie au temps présent comme une course contre la montre, on le voit beaucoup en science-fiction en ce moment. C'est un peu un piège parce que ça ne permet plus d'avoir la distance que permet normalement la science-fiction. C'est-à-dire que normalement, la science-fiction nous permet justement de se distancier du présentisme, d'être coincé dans la survie du sablier qui découle. Puis on le voit bien dans les nouveaux Star Trek. À l'époque, jusqu'à Next Generation, mais même plus tard, on s'arrêtait longuement sur un problème, on avait une distance, on avait le temps d'aller discuter autour d'une table, de réfléchir à tous les aspects du problème. Puis maintenant, dans les nouvelles séries Discovery, on a l'impression qu'il y a toujours un décompte, puis que ça va être la fin de l'univers à la fin de chaque épisode, puis qu'il faut courir vers là, puis on n'a jamais le temps de s'arrêter pour faire quoi que ce soit ou pour dire quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui a l'air d'être évoqué dans la série, qui me semble vraiment intéressant, puis qui est rendue encore plus évidente par ce procédé-là de l'avion qui est tellement fragile. Donc, tu sais, cette idée-là de voyager en avion, c'est comme le moyen de transport qui est clairement le plus dépendant de tellement de choses, de tellement de ressources. Il n'y a pas la stabilité, par exemple, du train dans du transpersonnage. Alors que je vois plein de rapports, en fait, avec le transpersonnage de ce que tu en dis. Tu dis que peut-être que ça va se finir de manière très, très négative. Je ne sais pas si c'est encore possible maintenant. J'ai l'impression que ce pessimisme-là absolu est un peu, ce fatalisme-là est disparu de la culture populaire, en fait. Parce que le transpersonnage, je trouve que c'est un bon exemple. La BD des années 70-80 est hyper pessimiste. Donc, il n'y a aucune lueur d'espoir. Chaque épisode est pire que le précédent. On s'enfonce de plus en plus dans la noirceur humaine. On ne sortira jamais du train, clairement, pas vivant en tout cas. Alors que la nouvelle série, ben là, maintenant, tout est beau. Il y a des arbres dehors. C'est la joie. Donc, je pense qu'on est rendu dans un point de la culture populaire où ce fatalisme-là est plus... Je ne sais pas ce qui est encore possible. Je me le demande.
Je vais revenir sur plusieurs points que tu as dit parce que c'est exactement ça, c'est super intéressant. Notamment cette idée de sablier et de compteur, comme si vraiment le temps était compté dans la série, c'est exactement ça. Et il est mis en avant de manière très directe, en fait, par le pilote de l'avion, qui est un peu le personnage qui est constamment, dans chaque scène, il va regarder sa montre et puis il va dire, bon, il nous reste 3 heures, après, faut que ce soit fait, faut qu'on décolle. Et c'est en fait constamment ça. Les 3 heures passent, ils arrivent à la fin, et puis il y a un nouveau problème qu'il faut régler dans un laps de temps. Du coup, cette dimension est très forte dans la série. Et je suis totalement d'accord aussi avec toi sur cette idée du pessimisme qui a disparu. Et en fait, c'est justement pour ça que je l'ai mentionné, parce que c'est une des rares, si ce n'est peut-être la seule série, où en tout cas au niveau de ce que je voyais, de ce qui a été dit à propos de cette série justement en ligne et un petit peu des commentaires des gens qui l'avaient regardée, c'est la première où je voyais justement plusieurs spectateurs qui avaient cette vision un peu pessimiste. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que c'était sans doute peut-être dû justement à la construction narrative de la série. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'en parle et j'attends de voir la saison 3. Pour l'instant, elle reste assez loin de cet optimisme et de cette utopie de « on va réussir à résoudre la catastrophe ».
J'ai l'impression que c'est une réaction, cet optimisme-là en science-fiction, j'ai l'impression que c'est une réaction au pessimisme généralisé du réel, par ailleurs. Tu sais, à une époque où, alors que je ne suis pas sûre qu'on voyait constamment la fin du monde, à la fin de la guerre froide, on commence à voir plein de fictions apocalyptiques qui sont tout le temps sur la fin totale. Puis là, maintenant qu'on a vraiment l'impression que ça s'en vient, qu'il y a toute une génération qui souffre d'éco-anxiété de manière vraiment maladive, puis qui n'ont pas l'impression qu'il y a une porte de sortie, ben là, on dirait que la fiction, au contraire, essaie de pallier à ça, je ne sais pas. Ouais, Claire?
Moi, ça m'évoque un petit peu une définition de l'éco-fiction que j'avais lue de Gabriel Navarre, qui distingue la fausse et la vraie éco-fiction. Et pour lui, la vraie éco-fiction, ben, ça va proposer une solution. Et donc, justement, il faut trouver un moyen de s'en sortir parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ça ne serait pas de l'éco-fiction, en tout cas, selon lui. Mmh. On tombe peut-être justement dans le récit seulement post-apocalyptique ou apocalyptique. Tandis que la fausse éco-fiction, au contraire, ça se base seulement sur la peur que le pire va arriver et puis finalement qu'on va pas s'en sortir.
Oui, ça serait plus une fiction écologique, au fond, plus que sur l'écologie.
Oui, ben j'allais dire un peu comme toi. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est presque cliché d'imaginer la fin puis de la voir. Donc, c'est aussi d'essayer de trouver toutes les alternatives possibles. Puis, il faut aussi dire, c'est souvent dans les séries Netflix, il y a cette idée-là de si on veut tuer éventuellement notre groupe, ce qui est quand même pas nécessairement probable parce que ça tue aussi la série, mais de la faire au moins durer le plus longtemps possible. Donc, oui, leur donner des crises au quotidien en termes de temps, puis vraiment, comme, leur donner aucune raison d'arrêter de regarder parce que ça va sans arrêt mal, mais quand même des faire sans arrêt aussi survivre pour fidéliser et pour pouvoir continuer la série. Donc, c'est un peu le paradoxe, malheureusement.
Oui, une série apocalyptique, il y a un paradoxe inhérent à ça quand on y pense. Là. C'est raconter la fin, mais de manière sans fin. Là.
Oh, ben, oui, c'est ça, de façon sérielle.
Oui, ben, surtout ben, parce que c'est, le, c'est la logique héritée quand même du soap qui fait qu'il faut s'installer quand même dans quelque chose où il y a des arcs narratifs qui évoluent, etc., etc. Et c'est vrai que là, il pourrait y avoir un truc intéressant à faire entre l'opposition de la présentation donc de ces apocalypses climatiques selon les médias. Parce que c'est vrai qu'on a tendance... Enfin, il y a toujours les deux écoles. C'est soit on l'étudie de façon générale à travers les différents médias, soit on se concentre sur un des médias, mais on étudie spécifiquement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de tenir compte des différents médias, mais de les comparer en n'oubliant pas que ce sont des différents médias, c'est-à-dire en voyant que chacun a des contraintes très différentes. Et je pense que ça crée quand même, et le transpersonnage en est un bon exemple, ça crée des différences radicales entre ce qu'on peut faire dans des bandes dessinées dans les années 80, ce qu'on peut faire dans les bandes dessinées dans les années 2000, qu'est-ce qu'on peut faire dans les séries dans les années 2010-2020. Et c'est clair que on ne peut pas traiter de la même manière selon les différents médias. Donc, on le savait beaucoup pour le cinéma et la littérature, ça a beaucoup été étudié. Mais finalement, maintenant, c'est assez récent qu'on s'intéresse vraiment au fonctionnement de la télévision et des séries, etc. Et je pense que ça fait partie de leur spécificité. Là, il y a un bon exemple, je trouve, de comment faire les soaps de l'apocalypse, finalement. Alors que, par exemple, dans la télévision, il y a eu quelque chose de très intéressant. C'est en 1977, c'est une sorte de mockumentary de catastrophe écologique. Et je pense que ça s'appelait Alternative 3. C'est vraiment super intéressant. Un truc qui avait surpris le public parce que ça avait été présenté au milieu de... Donc, c'était l'époque de la télé. Donc, ce n'était pas l'époque du câble, ni de Netflix, ni de tout ça. Donc, c'est au milieu de la programmation. Il y avait ce truc qui avait l'air tout à fait sérieux et qui... Donc, c'est très British par ailleurs. Donc. Et ça rejoint beaucoup d'ailleurs les obsessions British de la catastrophe.
Sinon, ça passait souvent par les anthologies, hein? Twilight Zone, tout ça. Là, on en avait plein des épisodes très apocalyptiques et qui, là, du coup, finissaient par une vraie fin. Puis c'est comme le renversement d'une série qui montre bien ce que tu vous disiez sur l'évolution, puis sur l'idée même du feuilleton de Last Man on Earth, qui a joué il y a quelques années. Je pense que c'est fini, ça fait quand même un bout de temps. Mais on part sur le principe de c'est le dernier homme sur Terre, puis à la fin, ils sont je ne sais plus combien. Il n'arrête pas d'apparaître des nouvelles personnes, des nouveaux enjeux. Donc, forcément, sur le long terme, à la télé, la fin, c'est un peu difficile.
Il y a un super manga aussi, parce que les mangas étaient confrontés à cette idée de faire des milliers de pages. Il y a un super manga des années 70, là, je n'ai vraiment pas le nom en tête, qui est tout à fait fascinant dans le côté post-apocalyptique. Et évidemment, pour faire des milliers de pages, il y a des moments où il faut faire intervenir le dilemme des survivants, etc. Mais c'est quand même fascinant parce que je ne sais pas pendant combien de volumes, mais on suit de manière... c'est très détaillé. J'avais été vraiment saisi par le côté très, très détaillé qu'on n'a souvent pas le temps, parce que justement, il faut avoir le temps d'un manga pour que quelqu'un se trouve à manger, il s'empoisonne avec des trucs parce qu'il ne connaît pas les trucs qu'il peut bouffer et pas, il essaye de faire pousser des trucs, de chasser des trucs. Et donc, il y a un rythme vraiment fascinant qui serait probablement le rythme d'une vraie survie post-apocalyptique. Donc, ce ne serait probablement pas un truc hollywoodien, ce serait au contraire un truc plutôt zen et très long et lent.
De ce côté-là, il faudrait aller voir les jeux vidéo, là. Il y a énormément de jeux de survie, pas besoin d'aller nécessairement dans l'apocalypse, juste des jeux sur des îles, mais souvent ça coûte très cher, même quand c'est assez grand public. Parce que justement, tu essaies beaucoup d'essais-erreurs avant de trouver ce que tu peux manger et tu as toutes les maladies possibles avant, à peu près.
Parlant de survie, justement, on peut peut-être donner la parole à Claire qui va nous parler justement de reconstruction. Donc, je pense que c'est peut-être de bonne aloi.
Après le désespoir de Into the Night, on va essayer de parler de la reconstruction. Donc oui, justement, moi, ce qui m'a intéressée, c'est de réfléchir à comment des fictions post-cataclysmiques, donc qui représentent une catastrophe écologique, c'est-à-dire qui incarnent la peur d'un futur où l'humanité a détruit le monde dont elle fait partie, peuvent toutefois dépasser le clivage nature-asservissement de la nature par l'homme jusqu'à épuisement des ressources, comme évoqué plus tôt. Donc, pour appartenir à la catégorie de vraie écofiction, hein, que je mentionnais dans mon intervention un peu plus tôt, les fictions de catastrophe ne pourraient pas se contenter de présenter une vision sans espoir d'un monde post-cataclysmique, sans issue ni pour l'espèce humaine, ni pour le monde en général, et devraient plutôt proposer une solution ou une alternative pour éviter le pire, portant alors un message politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'explorer la thématique de la reconstruction d'une société après l'effondrement, ou de l'alternative au modèle en tout cas. Et je propose aujourd'hui une lecture sous ce prisme du roman The Kahulan Army de Sarah Hall, qui a été publié en 2007, qui a été publié sous un autre nom intéressant aux États-Unis, Daughters of the North, je ne sais pas, au Canada, je n'ai pas vérifié. Et en français, ça a été traduit par Sœurs de guerre. Donc on voit déjà dans le titre des directions différentes, en tout cas sur l'interprétation du roman. Le récit se déroule dans un futur incertain, sans doute assez proche, mais ce n'est pas très clair, au nord de l'Angleterre, dans le comté de Cumbria, et il met en scène une société post-effondrement, terme qui englobe toute une série de désastres écologiques, comme la montée des eaux et les inondations qui ont suivi, dévastatrices à Londres en particulier. Le gouvernement britannique, remplacé par l'autorité avec un A majuscule, dépend de l'aide de ses alliés, notamment les États-Unis, pour survivre. Le récit à la première personne raconte l'histoire de Sister, un nom sur lequel je reviendrai, qui, suite à l'effondrement, a été déplacée en ville, relogée dans un appartement de misère et forcée à travailler dans une usine de production. L'ensemble de la population est en fait sous contrôle, confinée dans les villes, et doit participer à l'effort de reconstruction selon le plan fixé par l'autorité, même si personne ne semble vraiment trop y croire. Si une partie de la population se dresse au début contre ces mesures, une forme d'apathie les gagne peu à peu, renforcée par le contrôle de plus en plus autoritaire et violent de l'État. Ce type de roman, ce type de lente catastrophe écologique diffère des romans post-apocalyptiques où l'envergure du cataclysme est telle que la société dans son ensemble s'effondre. Ici, c'est lentement que le système politique, juridique, étatique se transforme en un système autoritaire qui régit la vie des individus dans le moindre détail, et cela d'autant plus quand il s'agit de femmes. En effet, le contrôle de la population s'accompagne d'un contrôle des naissances qui impose le port d'un implant contraceptif vaginal, souvent posé dans des conditions humiliantes et sujet à des contrôles réguliers qui assoient le rapport de domination sur le corps féminin qui est soumis au contrôle, concrètement des fouilles intimes, des représentants de l'autorité qui vérifient que l'implant est toujours là. Donc on a des abus sexuels généralisés et sanctionnés par l'autorité. Donc, suite à toute une série d'humiliations et face à l'absence de perspective de changement, l'héroïne décide de mettre en œuvre un plan pour fuir la ville et rejoindre une communauté de femmes qui vivraient dans un coin reculé, donc, qui s'appelle Kahulan, d'où le titre du roman, hors de la zone de contrôle de l'autorité. Donc, en effet, parallèlement à la situation dans les villes, des groupuscules d'individus continuent à vivre à l'écart et constituent des alternatives au système. La narratrice parvient, non sans peine, à rejoindre la communauté de Kahulan au cours d'un périple épuisant, jonché de descriptions détaillées du paysage, des plantes, des minéraux, et parsemé aussi de ses attentes complètement idéalisées de ce qu'elle va trouver dans cette communauté de femmes, qu'elle connaissait avant même l'effondrement. C'est une communauté qui existe depuis au moins 15 ans, peut-être plus. Et elle en a une image complètement idyllique, assez naïve, donc d'une communauté de femmes qui vivraient dans une approche holistique, en harmonie avec la nature, capable de la cultiver sans l'exploiter, offrant une alternative écologique et idéologique au modèle. Donc, dans ses pensées, dans ses réflexions à ce stade du roman, on retombe complètement dans le stéréotype de l'association femme-nature de façon très appuyée. Il y a même le cliché de la fusion avec le territoire est présent tout au long de ses descriptions. Par exemple, elle décrit la fondatrice de la communauté, Jackie Nixon, comme ça, donc en anglais, « It was a spirit bred from the landscape ». Donc, on a des choses comme ça assez fortes, comme si le contact de la terre, les femmes sont un petit peu transformées par cet aspect-là. Il y a aussi des adjectifs qui sont utilisés de façon récurrente, hein, primitive, native, indigenous, hein, on a vraiment ce retour hein, à la terre, au travail de la terre aussi, il y a comme une forme de porosité entre les deux. elle présente aussi l'idée qu'on retourne à un état naturel qui précéderait l'industrialisation, l'industrialisation vue comme le mal. La narratrice prête même une qualité rédemptrice à cette nature qui serait, selon elle, intouchée par l'homme. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toutes ces descriptions de paysages qui continuent pendant tout le long du roman, des descriptions très précises de plantes spécifiques à cette zone-là de l'Angleterre. J'ai dû faire beaucoup de recherches quand j'ai lu le roman, parce qu'il y avait beaucoup de mots de vocabulaire que je ne connaissais absolument pas et que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Donc dans un deuxième temps et après un passage brutal de torture-initiation, Sister est intégrée en tant que novice à la communauté puisqu'elle se fait repérer pendant son périple. Et donc ce faisant, elle perd son nom d'origine pour être rebaptisée Sister, nom qu'elle conservera jusqu'à la fin puisque son identité initiale a été complètement effacée, même des ordinateurs. À un moment, ils réussissent à effacer complètement son identité et elle ne souhaite pas récupérer son nom d'origine. Sister est la première novice depuis 14 ans, et même si les femmes de cette communauté ont eu de rares contacts avec le monde extérieur, elles n'avaient pas conscience de la gravité de la situation dans les villes, en particulier pour les femmes. Et donc l'arrivée de Sister, c'est vraiment un élément déclencheur dans cette communauté. Donc cette communauté, elle fonctionne sans règlement officiel. Chaque membre travaille pour contribuer à la vie de tous les individus, agriculture, élevage, cuisine, travaux de manutention en tout genre. Mais il y a également une milice qui est dirigée par Jackie pour faire office de protection. Protection de quoi? C'est pas très clair. Alors, c'est bien sûr, c'est la milice qui l'a récupérée pendant qu'elle était en train de marcher jusqu'à la communauté. Mais c'est le seul point qui fait controverse au sein de la communauté parce que toutes ne pensent pas que c'est une bonne chose que cette milice existe et reprochent à Jackie, qui est une ancienne militaire aguerrie, son désir de violence et de guerre qui serait issu des traumatismes qu'elle a vécu elle-même quand elle était dans l'armée. Donc régulièrement, il y a des réunions auxquelles toutes les femmes participent et tous les points qui posent problème sont discutés, débattus jusqu'à trouver un consensus. Il n'y a pas de chef officiellement, mais il paraît clair que l'opinion de Jackie, c'est celle qui prime et toute la communauté fait preuve de déférence vis-à-vis d'elle. Dans un troisième temps, le récit prend un virage quand Jackie annonce l'arrêt prochain de la communauté, le démantèlement de la ferme, le fait qu'elle va tuer tous les bêtes qu'ils ont en élevage. Voilà, la communauté va prendre fin afin de prendre les armes et d'attaquer les villes tenues par l'autorité avant d'être elle-même prise comme cible. Hein, on veut attaquer avant d'être soi-même attaquée. Son but est de s'opposer au système et de le renverser grâce à des tactiques de guérilla. Alors, s'ensuit un véritable passage d'endoctrinement quasi fanatique et dépersonnalisant de toutes les femmes qui souhaitent s'engager dans le combat. Et c'est la majeure partie d'entre elles, en particulier après avoir entendu l'histoire de Sister, mais pas toutes. Celles qui ne souhaitent pas s'engager dans le combat sont juste replacées dans les diverses villes. Jackie, elle est impitoyable et stratégique et elle entraîne les femmes de son commando jusqu'à en faire des vraies machines de guerre. Et c'est aussi une transformation qui se fait au contact de la terre. Et donc, on retrouve encore cette idée que les femmes sont transformées au contact de la terre. Et à la fin, elle a vraiment une armée prête à tout pour sa commandante. Elles sont victorieuses pendant un assez long moment, mais elles seront finalement balayées par les forces de l'autorité. Et seule Sister reste en vie. Et elle reste en vie parce que Jackie lui a ordonné de se rendre pour témoigner, pour raconter leur histoire, tout simplement. Et donc, le roman dans son ensemble, c'est la confession de Sister qui est en prison et qui est donc en train de raconter ce qui s'est passé. Donc, toute l'histoire qu'on a eue, c'est bien sûr selon sa perspective de guerrière de la fin du roman. Dans un roman comme The Carolan Army, où la crise écologique est lente et insidieuse, il n'y a pas de cataclysme soudain. La communauté de Caroline avait donc déjà commencé à se constituer dans le temps pré-cataclysmique, selon le moment où l'on considère que l'effondrement, le cataclysme commence, et ça pourrait se discuter. Elle propose une alternative écologique au système qui pose problème à certains points de vue. Par exemple, l'idée selon laquelle cette communauté n'est viable que parce qu'elle n'est constituée que de femmes. Quelques hommes vivent en périphérie de la communauté, mais leur présence est tue, même si elle est connue. Ils servent notamment à des fins sexuelles, mais aussi à accueillir les garçons nés dans la communauté quand ils atteignent la puberté. La proposition est radicale, mais l'environnement au cœur des préoccupations et rejette les sources traditionnelles du pouvoir et de l'autorité, notamment celles du gouvernement et du patriarcat. Cependant, en se radicalisant et en prenant l'offensive, le message s'obscurcit ou peut-être s'éclaircit, ça pourrait faire débat. Et les derniers mots du témoignage de Sister, quand elle finit de raconter son histoire, montrent bien ça. Hein, c'est à la manière d'un soldat. « My name is Sister », son nom. « I am second in console to the current army », sa position dans l'armée. « I do not recognize the jurisdiction of this government ». Et donc, ça se termine comme ça.
J'ai pas lu ce roman qui me semble tout à fait intéressant à avoir beaucoup de liens avec plein de romans de Margaret Atwood. Donc, je suis vraiment... puis pas ce, donc, autant la trilogie Mad Adam que Handmaid's Tale. Donc,
Tout à fait. Et d'ailleurs, la première partie, en particulier quand on est encore dans la ville, c'est plus ou moins une réécriture, hein, on le sent bien, de Handmaid's Tale.
Le rapport à la fertilité est vraiment très, très courant, hein, dans les récits, justement. Éco-fiction, il y a beaucoup de romans ou de fiction où c'est pas les pandémies tuent pas, mais rendent infertile ou bouleversent la fertilité, puis tout ça revient vraiment constamment, puis forcément nous questionnons sur le rapport à la nature, mais on a comme une opposition nature-culture qui revient encore plus radicale peut-être, je sais pas, est-ce que c'est questionné ça ou c'est...
Ben, c'est compliqué parce qu'on est toujours du point de vue très subjectif de Sister. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, quand elle est intégrée petit à petit dans la communauté, jusque-là, on avait une vision très, très utopique, très idéalisée de ce que ça allait être. Et finalement, les femmes à l'intérieur de la communauté ne sont pas du tout dans cette perspective-là. Et au contraire, elles sont très ironiques. Et donc là, on bascule quand même un peu aussi dans le post-moderne, je pense, avec cette vision très ironique de ce qu'elles font elles-mêmes.
Ouais, l'ironie, je pense que ça serait un bon filon à étudier dans le récit apocalyptique ou catastrophique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'on serait rendu à la parodie, quoi? Est-ce qu'on serait rendu à cette étape dans l'évolution de la culture populaire?
Il y a, oui, je pense que, curieusement, il y a enfin, ça me fait penser à deux choses. D'un côté, évidemment, il y a les vagues de parodies un peu spoof des films post-apocalyptiques, mais ça, c'est un cycle fréquent quand il y a un boom d'un sujet, il y a toujours une version parodique qui va apparaître. Donc, c'est le truc avec Seth Rogen et je pense que ça s'appelait juste End of the World, où il y a vraiment systématiquement, on se moque un peu de tous les clichés. Mais en fait, cette idée, elle remonte à très loin. Sur le réchauffement climatique, il y a déjà dans les années 50, donc une satire, je pense que c'était Frederick Brown, mais il y a une satire sur les systèmes d'air climatisé, parce que c'était la fureur de l'air climatisé. Et où il imagine qu'au fond, ça détruit la planète, mais avec beaucoup d'humour noir, etc. Donc, je pense qu'effectivement, et on le voit évidemment avec tout le côté nucléaire, avec le Kubrick, Dr. Strangelove, etc., etc., mais que très vite, il y a eu une vision très noire, un humour noir. À l'époque, on appelait ça le sick humor. Il y avait tout un truc autour du sick humor. Et bon, Vonnegut, etc., etc. Il y a eu beaucoup cette impression-là que justement, la génération de l'après-guerre, avec tout ce qui s'était passé et avec l'angoisse de la bombe atomique, etc., etc., était complètement pris dans un cynisme très, très désenchanté. Et là, peut-être qu'on est en train de voir la déclinaison écologique de ça. À l'époque, c'était parce que le climat d'angoisse de la guerre froide était tellement oppressif que ça créait ce besoin d'en rire, le rire noir, quoi, parce que c'était très présent. Et là qu'on commence à nouveau avoir peur de la bombe nucléaire, je pense qu'en quelques semaines, on a déjà senti qu'on n'est plus pareil là, par rapport à ce sujet-là. On l'avait complètement scrappé de notre
imaginaire. On trouve ça moins drôle. Hein?
Et on trouve ça beaucoup moins drôle. Je me suis replongé un peu là-dedans et j'ai revu quelques films nucléaires, etc. Et franchement, là, je pense qu'on peut à nouveau comprendre un peu la dynamique. On l'avait complètement oublié. Et je pense que ça nous faisait qu'on ne lisait plus du tout ces trucs de la même manière et on prenait ça un peu à la rigolade. Mais justement, la rigolade qu'eux, ils avaient n'est pas du tout la même qu'on a pu avoir quand on se sentait plus menacé. Et là, du coup, maintenant, je pense que c'est un moment pour revoir Dr. Strange, malheureusement.
Oui, un moment un peu terrifiant. L'autre truc, je voudrais peut-être revenir avec toi, Claire, c'est la question des communautés. C'est intéressant parce que c'est hyper courant dans les récits post-apocalyptiques. Puis souvent, la question du genre aussi est là. Il y a California, d'Eden Lipuki aussi. En tout cas, il y en a. Mais cette question-là de la gouvernance des communautés, c'est vrai que c'est étonnamment lié, en fait, parce que on oublie que nos systèmes ont émergé, nos systèmes politiques, nos systèmes de gouvernance, nos systèmes de création de communauté même se sont créés sur le climat, sur notre rapport à l'environnement, sur, je veux dire, on s'est créé des communautés au moment même où on a développé, j'allais dire l'esclavage, mais non, c'est pas ce que je veux dire, la culture. Donc, au moment où on a commencé à faire de l'agriculture, en fait, donc on a commencé à se sédentariser puis à créer des communautés. Puis c'est vrai que c'est là que notre rapport à la nature a changé, puis s'est construit aussi ces formes patriarcales-là qui ont mené ultimement à leur sommet au moment de la modernité, au moment de la modernité industrielle. Puis c'est vrai qu'il y a comme une opposition à ça, mais ce qu'on voit dans le roman dont tu parles, en tout cas de la manière dont tu en parles, c'est qu'on sait c'est quoi le problème, mais on ne sait pas c'est quoi la solution. C'est-à-dire qu'on sait quel système va tomber, mais on n'arrive pas à s'imaginer d'autres systèmes. On est encore pris dans notre boîte, on n'arrive pas à déconstruire, autrement dit, notre imaginaire de la communauté. C'est toujours un échec quand on le fait, puis c'est toujours parce qu'on recrée les mêmes motifs. Là, tu avais l'air de dire que c'était plutôt un modèle anarchiste qui est mis en place, mais c'est intéressant parce que c'est le genre de...
Oui, qui fonctionne sûrement parce qu'elles sont 64 exactement, donc c'est peut-être aussi la taille du groupe qui fait que c'est possible de gérer. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jackie Nixon, qui est la fondatrice de la communauté, décide donc que tout va s'arrêter, il n'y a personne vraiment qui s'oppose à elle. Et en même temps, elle dit, voilà, on a réussi. On a montré que ça fonctionne. Maintenant, on peut arrêter, puis on va faire ce qui est vraiment important, c'est-à-dire on va aller attaquer l'autorité pour enlever ce régime un peu fasciste qui est en place, et on va essayer de montrer qu'on n'est pas, on va pas accepter ce qu'ils font subir au reste des femmes en particulier. Hein, vraiment, elle est vraiment dans une perspective très, très féministe. Hein, elle refuse, c'est elle qui refuse que les hommes rentrent dans la communauté au début. Mais oui, pour elle, c'est une réussite. Et en fait, le rôle de Sister aussi, c'est de raconter la réussite de cette communauté. Donc, mais comme tu dis, il n'y a pas vraiment de réponse. Et même dans le fonctionnement, on voit bien que ça fonctionne, mais ça, c'est, voilà, c'est plus anarchique. Il n'y a pas vraiment d'organisation, quoi, ouais.
Aussi, il y a toujours le danger de se faire attaquer parce que tu disais, moi non plus, je n'ai pas lu l'œuvre en question, mais j'imagine si l'autre système, l'autorité, est fasciste, il pourrait éventuellement les attaquer si le groupe devenait plus gros aussi. Donc, ça peut fonctionner tant que c'est une exception à l'intérieur d'un système, mais dès que ça menacerait sérieusement le système, c'est quand même assez dur d'imaginer à la fois un système qui est paisible, pacifique, écologique et qui pourrait affronter militairement notre système capitaliste actuel, surtout avec les instruments dont il dispose, autant de surveillance que militaire.
C'est curieux parce qu'on est en train de relire aussi beaucoup la préhistoire à travers notre... Puisque on est toujours pris dans cette dialectique entre l'écriture de l'histoire et le contemporain et comment on revoit l'histoire à travers le contemporain. Mais justement, ce qui est assez fascinant, parce qu'à partir du lapsus que tu as fait, c'était un lapsus très significatif avec l'esclavage, parce qu'en fait, c'est venu... C'est-à-dire qu'en fait... Il y a beaucoup de théories sur la révolution du néolithique et sur les premières cultures agricoles, etc., où tout à coup, du fait qu'on se sédentarise, qu'on crée ces communautés-là, se pose tout de suite le problème de la tentation des autres de piller ce que les communautés agricoles sont en train de faire, etc., etc., et commence tout un cycle impérialiste, colonial, etc., etc. Donc, très vite. Et en fait, ironiquement, beaucoup d'anthropologues, etc., disent qu'au fond, probablement, c'est là que ça a commencé à déconner. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des millénaires, l'espèce humaine avait existé, évidemment, dans des conditions qui pouvaient être difficiles, mais il y a le livre très célèbre de Salins qui dit que c'était une ère d'abondance et qu'en fait, ce n'était pas du tout le truc de Hobbes où tout le monde se tuait, l'homme était un loup pour l'homme. Il dit au contraire, c'était des communautés qui trouvaient bien leur compte, des petites communautés, chasseurs-cueilleurs, etc., etc. Et donc, le fait qu'eux, ils aient pu vivre pendant des milliers d'années sans qu'on sache rien d'eux, puisque c'est ça la préhistoire, mais qui avant était vu comme une sorte de... pas tout à fait d'échec, mais t'es vu comme une sorte de truc bof, pendant des milliers de... on sait rien de... Bon. Mais là, beaucoup de gens sont tentés de voir ça comme la véritable réussite de l'espèce, c'est-à-dire que c'est plus tard que, tout à coup, avec la création de la révolution néolithique, etc., puis la création des empires, l'esclavage, les guerres, etc., etc., où les choses se seraient profondément gâtées. Donc, c'est très curieux aussi que c'est pas seulement vers le futur qu'on projette ces images-là, parce qu'on est en train de projeter des modèles historiographiques sur le futur, c'est ce que la science-fiction fait, mais en même temps, on est en train de revisiter d'où on vient. Et donc, ce qui est très curieux, c'est qu'à chaque fois, cette idée de comment on repart à nouveau, ben, finalement, on rejoint l'idée de d'où on vient, d'où on est parti.
Mais tout à fait, j'avais travaillé un peu Miyazaki, autant Nausicaa que La princesse Mononoké, et on n'a pas besoin d'aller en science-fiction pour déjà voir beaucoup des trucs qu'on a parlé aujourd'hui. Il y a toujours cette idée-là de « Ah, ben, quoi, on a tous les trucs, on va commencer, puis on va bien le faire cette fois-ci », mais malheureusement, il y a toujours un dérapant pour des raisons de pouvoir et de ressources qui fait qu'on se rebataille pour les avoir et que ça mène à une autre catastrophe.
Il faut dire que la culture japonaise a aussi une perception du temps un peu différente, mais ouais, c'est fait. Effectivement, ouais, qui sert de métaphore très, très efficace.
Ah, ben, à cause de la bombe, effectivement, eux peuvent très facilement imaginer la destruction. Et on le voit notamment avec leur figure de Godzilla aussi, que j'avais
travaillé. Oui, et puis d'un autre traumatisme qui est la modernisation. C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, bon, c'est l'ère Meiji, tout ça. C'est-à-dire que la modernisation, c'est que tout à coup, on passe de culture vraiment traditionnelle à des cultures industrielles en l'espace de très peu de temps. C'est ce qui est arrivé beaucoup dans les colonies, par ailleurs, européennes, etc. etc. Mais c'est clair que là, ce clivage où on passe, où on a Afrique, etc. La modernisation, c'est un traumatisme. Mais ce qui est assez curieux, c'est que dans nos fictions maintenant, l'agriculture passe pour un truc très pastoral, très cool. Alors que historiquement, l'agriculture, c'est quand même ce qui a fait qu'on a arrêté d'être des nomades et qu'on a commencé à se castagner très sérieusement entre nous, quoi. Donc, c'est assez curieux que l'agriculture soit devenue un truc comme très zen, très peace and love, alors que justement, d'un point de vue historique, ça n'a pas été peace and love.
Je pense que ça va être une bonne conclusion. Autant revenir au début. On n'a évidemment pas fait le tour de la question. On va sûrement y revenir dans d'autres épisodes, mais je pense que on va s'arrêter là, puis je vais vous remercier beaucoup pour votre participation très active et vos interventions tout à fait intéressantes. On va se dire à la prochaine et merci beaucoup. Yeah.